Il y a une règle qui est très... une loi, pour ainsi dire, qui n'a pas beaucoup changé depuis le début, c'est-à-dire que seulement la moitié des acheteurs de Du côté de chez Swann se procurent le second volume à l'ombre des jeunes filles en fleurs, et seulement la moitié des acheteurs d'à l'ombre des jeunes filles en fleurs se procurent le côté de Guermantes, le troisième tome, et à partir de là c'est stable, c'est-à-dire que ça ne diminue plus à travers Sodome et Gomorre, la prisonnière Albertine disparue et le temps retrouvé, ce qui veut dire qu'un vrai lecteur de Proust, c'est quelqu'un qui a été jusqu'au côté de Guermantes et puis qui n'a pas pu lâcher le roman, mais on en a perdu les trois quarts, et cela veut dire que il y a une certaine difficulté de ce livre qu'il ne faut pas se cacher. Proust écrit avec des longues phrases, il y a de longs développements, de longues soirées mondaines, et cela peut repousser les gens. Mais d'une certaine façon, les gens ont raison d'avoir peur des livres, parce que les livres vous transforment. Quand on entre dans un livre comme La recherche du temps perdu, vraiment, quand on y entre vraiment et qu'on va jusqu'au bout, eh bien, on en sortira un autre.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Faut-il avoir peur des livres ? Les régimes autoritaires, les adeptes de l'orthodoxie religieuse et les moralistes frileux ont de tout temps répondu « oui ». Mais c'est de l'absence de livres dont nous devons bien sûr avoir le plus peur. Que serions-nous aujourd'hui si nous n'avions, avec délices, avidité et joie, plongé dans ces lectures d'enfance puis d'adolescence qui nous ont donné le goût des autres, appris la tolérance et surtout enseigné l'importance du temps ? Celui rythmé par le froissement des pages qui nous pousse à la rêverie, à la réflexion, au souvenir. Les livres, vous le savez bien, nous forgent des défenses pour affronter l'absurdité du monde. Grand proustien et professeur au Collège de France, Antoine Compagnon admet sans barguigner qu'entrer dans la recherche du temps perdu n'est pas chose facile. Et nombreux sont les lecteurs émérites de la recherche qui avouent avoir dû y revenir plusieurs fois. Comme s'il fallait que la musique si particulière de ces phrases entre en résonance avec notre propre musique intérieure, comme lors d'une rencontre amoureuse. Stéphane Huette fut un temps marin et pendant longtemps, il détesta Proust. Mais un jour, revenu sur la terre ferme, ses yeux se sont ouverts. Et puisqu'il a un joli talent de dessinateur, c'est en BD qu'il lui a rendu hommage. Le 7e tome de sa recherche dessinée vient de paraître chez Delcourt. Bonsoir Stéphane Huette.
Bonsoir.
Alors, on vient d'entendre Antoine Compagnon qui dit qu'effectivement, embarquer dans la recherche, c'est un voyage au long cours. Vous étiez un spécialiste des voyages au long cours, vous étiez marin. Oui. Et pourtant, il a fallu attendre pas mal d'années avant que votre Proust soudain devienne une évidence.
Oui, c'est vrai. Et pourtant, on lit beaucoup. Vous savez, sur les bateaux, on lit. Il y a de belles bibliothèques sur les navires. Et j'avais essayé de le lire, effectivement, quand je m'étais cassé une jambe en Afrique, à Djibouti. Et j'avais trouvé ça ennuyeux comme la pluie. Enfin, j'avais 20 ans. Et je pensais ne plus jamais le reprendre. D'ailleurs, je comprenais même pas pourquoi on faisait des gorges chaudes de ce livre. Et c'est bien plus tard, 15 ans plus tard, qu'après une discussion très animée avec ma femme, à propos de La recherche du temps perdu, que j'ai recommencé à lire, mais pas du tout pour lire, pour le plaisir, juste pour démontrer que j'avais raison de trouver ça casse-pied. Mais entre-temps, j'avais vécu, j'avais aimé, j'avais perdu des êtres chers. Et surtout, vous savez que Proust dit « Celui qui me lira, se lira lui-même ». Et je pense que c'est vraiment tout à fait ça. Parce que moi, à 20 ans, il n'y avait pas grand-chose à dire.
Mais au fond, ce que vous êtes en train de dire, Stéphane Huette, c'est qu'on a tort de vouloir pousser les jeunes gens à lire Proust. Qu'il faut, comme vous venez de le dire, avoir vécu, avoir souffert, avoir aimé. Et avoir senti le temps passer aussi sur tout cela, sur ces passions-là, pour apprécier Proust. À 20 ans, il est rare qu'on tombe amoureux de la recherche.
Tout à fait. Vous savez, c'est le problème aussi, les enfants, pour leur faire découvrir certains auteurs, on les force à lire. Moi, je me rappelle, je sais pas, 15 ans, 16 ans, on nous forçait à lire Chateaubriand. C'est vrai que c'est pas le moment, quoi, c'est sûr. Et Proust, c'est vraiment navrant, parce que c'est pareil, les occasions de tenir un enfant pour dire ça, c'est bien, lis-le. Ben, on ne les a qu'à l'école, ces occasions. Et à l'école, ben, on est trop jeune.
Mais du coup, alors, votre entreprise, que certains, à l'époque, au début, ont commencé à trouver vraiment iconoclaste, pour ne pas dire sacrilège, cette entreprise de faire Proust en bande dessinée, au fond, c'est peut-être une approche plus facile pour les jeunes générations. à y arriver aussi par le dessin, se familiariser avec ce style inimitable pour plus tard peut-être plonger dedans. C'est un petit peu votre espoir?
Ça l'est maintenant, mais à l'origine c'était pas du tout ça. En fait, c'est un coup marketing. Vous savez, c'est un peu comme Fleming qui a découvert la pénicilline par hasard. À l'origine, je faisais ça pour les Proustiens, moi. Quand j'ai lu la deuxième fois, j'ai trouvé ça incroyable. C'est vrai, ce que je vais vous dire. Au début, je me suis dit, c'est incroyable, Proust pense comme moi. Avant, quand même, quelques secondes après, de comprendre que c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, tout le monde pense comme moi. Tout le monde voit la même chose quand il perd sa grand-mère. Tout le monde a la même émotion quand il voit le soleil passant à travers des feuilles mouillées. Simplement, cette chose-là, il n'y a que Proust qui a su le raconter comme ça.
Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible comme après la métempsychose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi, j'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt je recouvrais la vue, et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure.
J'ai voulu documenter les Proustiens. J'ai voulu leur dire, vous aimez comme moi ce livre, mais peut-être ne savez-vous pas à quoi ressemble la maison de Tante Léonie si vous êtes brésilien. Vous ne savez pas comment était l'uniforme des militaires qui passaient derrière chez Tante Léonie. Et je vais vous apporter une documentation sur le Paris de cette époque, qui est quand même très différent de celui d'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire. Et en fait, assez curieusement, ça a eu ce succès auprès du grand public, qui en fait voulait un peu savoir ce que c'était que cette histoire de Madeleine. Et donc le succès commercial, si vous voulez, n'était pas l'objectif. Hein. C'est pas un coup marketing, ou plutôt c'est un coup de marketing à la Fleming.
Et pourtant maintenant, vous en êtes au 7e tome, il y en a encore d'autres à venir, mais c'est devenu un vrai succès, ce qui est assez étonnant, parce qu'on peut se dire que justement la clientèle des BD, les BDistes comme on dit, ne sont pas forcément attirés, et pourtant on voit bien le succès dans les établissements scolaires, dans le monde entier, les traductions sont innombrables, Stéphane Huette, et pourtant au départ... C'est vrai que pour les Proustiens, mettre des images sur les mots sacrés, c'était quand même une entreprise assez hardie. Et pourtant, il y a un grand peintre qui s'y était risqué, non pas à mettre tellement des images, mais comme il va nous l'expliquer, à dessiner dans les marges, c'est Pierre Alechinski.
Alors les dessins sont évolutifs, c'est-à-dire à partir de lignes que j'espère gracieuses et qui me rappellent ou qui épousent des formes féminines, de temps en temps, je pouvais ajouter une petite tête ou un petit profil ou une allusion à un visage, mais ce n'était pas prévu d'avance. C'est-à-dire que c'était comme une sorte de cadeau qui pouvait s'installer dans le dessin et qui pouvait être allusif à ce qu'on était en train de lire. Mais dans la quantité d'images que j'ai faites, il y en a très très peu qui se rapportent vraiment au texte, sauf quelques-unes, comme par exemple les clisses d'un violon, comme évidemment les Cattleya. Alors là, j'ai dessiné d'après nature quelques Cattleya, dont j'ai fait par la suite trois eaux fortes pour les exemplaires de tête. Et puis dans l'iconographie photographique, j'ai vu une magnifique... image de Charlus tenant pompeusement une canne, et la canne étant propice à rentrer dans une marge. Elle est présente dans le livre. Et tout de même, d'après une photo de Madame de Guermantes, j'ai pu faire une petite silhouette, mais j'ai laissé surtout le lecteur libre.
Ce qui est très joli dans cette archive de Pierre Alechinski et Stéphane Huette, c'est de dire « j'ai vu une photo de Madame de Guermantes ».
Oui, oui.
C'est charmant parce qu'effectivement, il a pu voir la comtesse Greffule ou bien d'autres dames de la bonne société.
Mais beaucoup de gens pensent que Swann a existé. Enfin, c'est vrai que j'ai un vieux dictionnaire des années 30 dans lequel au nom Proust, il y a marqué « auteur d'une autobiographie ». Et beaucoup de gens s'imaginent que c'est une histoire vraie.
Mais alors, là, justement, pour vous, Proustien tombé en amour, alors à partir de l'âge vénérable de 35 ans, j'imagine que pour vous, rentrer avec le dessin dans l'univers de Proust, ça veut dire une recherche démesurée pour avoir le maximum de réalisme, ne pas mal dessiner les lieux de Proust, les personnages de Proust. Ça veut dire qu'avant de vous y mettre, il a fallu entasser une documentation phénoménale.
Oui, et je continue du reste. En fait, au fur et à mesure des albums, si vous voulez, chez les bouquinistes, les libraires, je découvrais un livre qui était pas tout à fait, qui concernait pas forcément Un amour de Swann ou Autour d'un âme Swann ou L'onde d'une fille en fleurs, mais je me disais à chaque fois, ça va me servir plus tard. Justement pour le côté de Guermantes, le prochain ça va être le côté de Guermantes, enfin celui que je termine c'est Autour d'un âme Swann, mais le celui à venir c'est le côté de Guermantes. J'ai déjà toute la documentation parce que ça fait 22 ans que j'entasse cette doc, et c'est vrai que ce sont à la fois des photos, parce qu'on a quand même beaucoup de chance en adaptant Proust, c'est que le monde proustien a été très photographié, c'était la grande mode à l'époque d'aller se faire tirer le portrait chez Nadar, et donc toutes les personnages qui ont inspiré Proust et qui sont en quelque sorte devenus des patchworks, hein, qui ont constitué, à part Charles Haas et Édouard VII, aucun personnage n'est entier. Tout ça, ce sont des personnages composites. Mais les décors ont été aussi photographiés. La mairie de Paris, c'est extraordinaire. Quand Haussmann a commencé ses travaux, après le plan Siméon, la mairie de Paris a demandé à Marville, le photographe Marville, qui avait une équipe d'une, je crois, une douzaine de photographes, de photographier ce qui allait changer. Et ça a été édité par la RMN. Moi, j'ai un dictionnaire de tout ce qui a changé à Paris au moment des travaux d'Haussmann, jusqu'en 1934. Vous y ajoutez les tableaux de Monet, Manet, Degas, Jonquine, Béraud, Gervex et compagnie. Moi, j'ai toute la documentation qu'il faut, en noir et blanc et en couleur.
Et puis il y a les lieux proustiens, comme notamment le jardin des Champs-Élysées, puisque là nous parlons aussi de ce septième tome que vous avez dessiné, À la recherche du temps perdu, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. C'est autour de Madame Swann, et bien sûr le narrateur va rencontrer Gilberte, et on écoute Lambert Wilson nous lire ce passage que vous avez illustré, Stéphane Huette.
Je ne savais vraiment plus comment étaient faits les traits de Gilberte, sauf dans les moments divins où elle les dépliait pour moi. Je ne me rappelais que son sourire. Et ne pouvant revoir ce visage bien-aimé, quelque effort que je fisse pour m'en souvenir, je m'irritais de trouver, dessinés dans ma mémoire avec une exactitude définitive, les visages inutiles et frappants de l'homme des chevaux de bois et de la marchande de sucre d'orge. Ainsi, ceux qui ont perdu un être aimé qu'ils ne revoient jamais en dormant s'exaspèrent de rencontrer sans cesse dans leurs rêves tant de gens insupportables, et que c'est déjà trop d'avoir connu dans l'état de veille. Dans leur impuissance à se représenter l'objet de leur douleur, ils s'accusent presque de n'avoir pas de douleur. Et moi, je n'étais pas loin de croire que, ne pouvant me rappeler les traits de Gilberte, je l'avais oubliée elle-même, je ne l'aimais plus. Enfin, elle revint jouer presque tous les jours, mettant devant moi de nouvelles choses à désirer, à lui demander pour le lendemain, faisant bien chaque jour en ce sens-là de ma tendresse une tendresse nouvelle. Mais une chose changea une fois de plus, et brusquement, la façon dont tous les après-midi vers 2 heures se posait le problème de mon amour. Monsieur Swann avait-il surpris la lettre que j'avais écrite à sa fille, ou Gilberte ne faisait-elle que m'avouer longtemps après, et afin que je fusse plus prudent, un état de choses déjà ancien? Comme je lui disais combien j'admirais son père et sa mère, elle prit cet air vague, plein de réticence et de secrets qu'elle avait quand on lui parlait de ce qu'elle avait à faire, de ses courses et de ses visites, et tout d'un coup finit par me dire « Vous savez, il ne vous gobe pas. et glissante comme une ondine, elle était ainsi, elle éclata de rire. Souvent, son rire en désaccord avec ses paroles semblait, comme fait la musique, décrire dans un autre plan une surface invisible. Monsieur et Madame Swann ne demandaient pas à Gilberte de cesser de jouer avec moi, mais eussent autant aimé, pensait-elle, que cela n'eût pas commencé. Ils ne voyaient pas mes relations avec elle d'un œil favorable, ne me croyaient pas d'une grande moralité et s'imaginaient que je ne pouvais exercer sur leur fille qu'une mauvaise influence. Ce genre de jeunes gens peu scrupuleux auxquels Swann me croyait ressembler, je me les représentais comme détestant les parents de la jeune fille qu'ils aiment, les flattant quand ils sont là, mais se moquant d'eux avec elle, la poussant à leur désobéir, et quand ils ont une fois conquis leur fille, les privant même de la voir.
Stéphane Huet, j'ai sous les yeux donc toutes les pages où vous avez retranscrit ce passage et on voit bien que à la fois il y a les extraits que vous avez donnés, c'est un vrai travail d'orfèvre parce que la musique de Proust s'entend dans les textes que vous avez choisis, on voit bien les coupes que vous avez été obligé de faire, j'imagine le cœur un peu fendu de faire cela. Et on voit derrière ce Paris de ce temps-là, avec une précision dans la description. C'est un véritable travail d'amoureux que vous avez fait là.
Oui, c'est incroyable, je ne savais pas du tout. Il y a très peu de temps que j'ai réalisé que ça faisait vraiment toutes ces années-là. Moi, je me pensais être un marin qui s'était consacré à une sorte de hobby, ou à une passion soudaine, mais secondaire, après la mer, parce que je continuais à naviguer, mais dans le civil. Mais en fait, je me suis dit, mais non, ma vraie vie, c'est ça. Ma vraie vie, c'est Proust, que j'adapte, que je lis, que je relis inlassablement, que je connais quand même pas mal.
Par cœur, presque.
Il y a certaines périodes de la recherche que je connais mieux que d'autres, mais enfin, j'en connais beaucoup. Mais évidemment, imaginez 22 ans à faire ça, et que ça.
Mais donc 22 ans, si je ne m'abuse, pour Proust, lui, il a mis
moins que ça.
16 ans pour écrire cet tome, et vous avez mis 22 ans pour faire cet tome.
Oui.
Donc il y en a encore.
Oui,
vous allez vivre vieux.
J'espère vivre bien, en bonne santé surtout, oui. mais je pense que je mourrai avant de terminer. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus long. Vous savez, je mets 3 à 4 ans pour faire un album, et c'est pas dessiné, même si les dessins sont effectivement assez exacts et que ça demande beaucoup de brouillon. Hein. Il y a 300-400 dessins par album en général, donc imaginez multiplier ça par 6-7 brouillons, ça fait des milliers de dessins. Mais en fait, le plus long, c'est le scénario. C'est ce découpage où il faut que grammaticalement ce soit parfait, qu'on ne sente pas ce travail de Givaro. En fait, tout l'effort doit être inaperçu. Le lecteur ne doit pas s'en dire que j'ai coupé. Mais en même temps, il faut qu'il n'y ait pas de mots coupés non plus. Il ne faut pas qu'il y ait de retour chariot, etc. Alors, je ne sais pas, en chinois, je ne sais pas comment c'est coupé, je ne sais pas comment, ou même en brésilien, je ne sais pas comment c'est fait. Mais en français, je sais que le lecteur n'aura jamais un mot qui l'obligera à retourner à la ligne pour le terminer. J'essaie d'être le plus lisible possible. Et ça vient de Tintin. Vous voyez, ça vient de ce travail du lettrage capital et bas de casse, un lettrage facile à lire avec des A, vous savez, comme des petits scorpions, pour que la lecture, même rapide, soit sans erreur.
Vous dites Tintin, c'est vrai, on ne peut pas s'empêcher de penser à ces BD classiques de notre jeunesse. C'est une lecture très claire, on dit la ligne claire d'ailleurs, c'est très lisible, les personnages sont reconnaissables. Et puis, reconnaissables comme la sonate de Vinteuil.
Thank you.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Il y a tout, et il y a les perversions, il y a les maladies mentales, il y a les maladies tout court, il y a la gentillesse, il y a la méchanceté, il y a la structure familiale qui nous est en général commune à tous, il y a l'art, et il y a le problème du temps. Ce vieillissement, tout lecteur vieillit, évidemment, même en lisant un livre, on a déjà vieilli depuis la première page. Donc, qu'est-ce que le vieillissement et comment en triompher? Et qu'est-ce que l'éternité? Il faut ajouter que Proust n'est pas un auteur religieux, il n'est pas croyant, il n'est pas non plus anti quoi que ce soit. Et alors, il pose les termes du problème, on le voit très bien dans un passage superbe qui est consacré à la mort de son écrivain qui s'appelle Bergotte. Et aussitôt après avoir fait le récit de la mort, il écrit « Mort à jamais, qui peut le dire ?» Et c'est ça qui fait finalement la force de Proust, c'est l'interrogation. C'est-à-dire, il ne nous impose pas de solution toute faite, ni même l'absence de solution, l'absurde par exemple, comme on a fait plus tard avec nos amis Camus et Sartre, mais non, pas du tout, il interroge. Et ça aussi, c'est bouleversant, parce que la question est de toujours et la réponse est momentanée.
Stéphane Huette, c'est bien sûr la voix reconnaissable entre toutes de Jean-Yves Tadier, grand proustien devant l'Éternel, et qui dit effectivement ce que vous disiez au début, c'est pas nous qui pensons comme Proust, c'est que Proust parle de la vie comme nous la connaissons. Et quand Tadier dit « il y a tout dans Proust », je me dis au fond, lorsqu'est arrivé le pilier de Notre-Dame et que vous avez rencontré Proust dans une lumière éclatante, au fond, quelle est la phrase ou quel est le moment, quel est le sentiment qui tout d'un coup vous a fait vous sentir en pays familier?
Combray. Combray, la première partie du côté de chez Swann, quand il décrit la maison de Tante Léonie, ses déjeuners interminables le dimanche, moi j'ai eu droit à ça, les escaliers qui sentent l'encaustique, le ne lis pas, parce qu'à l'époque, aujourd'hui on les supplierait, mais à l'époque, lire, c'était une distraction, c'était bien de lire, enfin quand même, il fallait quand même ne pas faire que ça. Et ben ça, quand il se cache pour lire, quand il a ses réunions de famille, le bœuf à la casserole, etc. Ah oui, moi j'ai revécu Brest en octobre, quand il pleut dehors.
Et quand vous dites que, au fil du temps, quand vous regardez par rapport au premier tome que vous avez dessiné et aujourd'hui, vous me disiez tout à l'heure, et je voudrais que les auditeurs l'entendent, qu'en fait, au départ, c'était le dessin qui vous posait le plus de problèmes et que maintenant, en fait, c'est l'idée d'avoir à couper dans le texte.
Oui,
c'est une évolution étonnante pour un dessinateur.
Oui. En fait, oui, le plus gros du travail maintenant, indéniablement, c'est le scénario, parce qu'il faut que je fasse quelque chose de fidèle, de pas trop traître. Pour le dessin, je pense que n'importe qui sait dessiner dessinerait ce que je fais. Vous voyez, à partir d'une documentation du temps, ça c'est sûr qu'il faut pas se coucher tôt et faut se lever très tôt. Quand on y met le temps et qu'on a l'augmentation, on dessine comme je dessine, si c'est nécessaire. En revanche, le découpage, ça veut dire lire, ressentir tout ce qui est transmis, tout ce qui est évoqué par un paragraphe tout entier, et sans trahir la grammaire, sans couper les mots, sans écrire autre chose, et surtout, et c'est là que le dessin intervient, sans trop accélérer le rythme, faire que lorsqu'on lit ça, on a l'impression d'avoir lu la même chose, même si c'est pas vrai. Moi, je dis à tous ceux qui lisent mes bandes dessinées, qui les aiment bien, si vous aimez la BD, vous adorez le livre. Mais le dessin sert parfois, curieusement, parce qu'on dit, vous savez, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Mais moi, je fais de longs dessins. Pour que la lecture de mes bandes dessinées soit aussi longue, parce que le rythme fait partie du style chez Proust. Et donc la longueur fait partie du style chez Proust. Et donc quand je raccourcis, c'est là que je trahis Proust. Et donc quand je fais des grands dessins avec beaucoup de... Vous voyez, dans le dernier, là, l'escalier de l'opéra, avec ces centaines de personnes.
Dans le précédent, il y avait Balbec, la plage, beaucoup de dessins, des pages doubles.
Oui.
C'est pour nous laisser le temps de s'arrêter aussi.
De s'arrêter, voilà. Et de rentrer, de dire, ah, il y a un petit chien, oh là, derrière, il y a un musicien avec un violon. Il faut que le lecteur rentre dans le dessin. Parce que sinon, Ben sinon, c'est Tintin. Moi, je fais plus du Blake et Mortimer que du Tintin, même si pour moi, Tintin est un maître absolu, avec son Hugo Pratt. C'est plutôt du Blake et Mortimer, parce qu'il y a du détail. Mais vous savez, c'est un petit peu... Alors que les personnages, quand vous regardez, les personnages ne sont pas très détaillés. Ils sont assez sommaires, pour que justement on puisse s'identifier. Plus un personnage est réaliste, moins on s'identifie. Par exemple, Blueberry, qui s'est mis à ressembler très vite à Belmondo, c'est une femme ou à un enfant qui ne ressemble pas à Belmondo, mais il ne peut pas s'identifier. Alors qu'un personnage un petit peu la Little Nemo, comme je le dessine parfois, là, même une femme peut s'identifier. Mais les décors derrière sont fouillés. Et ça, c'est grâce à Mary Poppins. C'est grâce à Mary Poppins et aussi, du reste, à Qui veut la peau de Roger Rabbit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Mary Poppins, à un moment donné, elle est avec le ramoneur et les enfants, ils sont sur un manège, et puis hop, les petits chevaux sortent du manège, et ils partent dans un décor, il y a des cochons, enfin, je ne me rappelle plus trop. Enfin, c'est un dessin animé. Mais les personnages sont des personnages de cinéma. Et je me suis aperçu que ça fonctionnait quand même. De même que dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, il y a un personnage de dessin animé qui est dans un décor réel. Donc on peut mélanger les styles, et ça fonctionne très bien.
Alors évidemment, quand on parle de Proust, tout le monde parle de la gravité, le temps qui passe, la mort. Il revient, tout le monde pense à la mort de la grand-mère. Mais il y a une chose qui vous a attiré, Stéphane Huette, comme beaucoup de lecteurs de Proust, c'est parfois l'hilarité qui nous prend devant certaines pages. Proust est bourré d'humour, et notamment quand il dépeint le dîner chez lui avec Monsieur de Norpois, et qu'il passe la parole à Françoise, cette bonne Françoise, qui fait un repas délicieux et qui fait du jambon de New York.
Depuis la veille, Françoise, heureuse de s'adonner à cet art de la cuisine pour lequel elle avait certainement un don, stimulée d'ailleurs par l'annonce d'un convive nouveau, et sachant qu'elle aurait à composer, selon des méthodes sues d'elle seule, du bœuf à la gelée, vivait dans l'effervescence de la création. Comme elle attachait une importance extrême à la qualité intrinsèque des matériaux qui devaient entrer dans la fabrication de son œuvre, elle allait elle-même aux Halles se faire donner les plus beaux carrés de rump steak, de jarret de bœuf, de pied de veau, comme Michel-Ange passant 8 mois dans les montagnes de Carrare à choisir les blocs de marbre les plus parfaits pour le monument de Jules II. Françoise dépensait dans ses allées et venues une telle ardeur que maman, voyant sa figure enflammée, craignait que notre vieille servante ne tombât malade de surmenage comme l'auteur du tombeau des Médicis dans les carrières de Pietra Santa. Et dès la veille, Françoise avait envoyé cuire dans le four du boulanger, protégé de mie de pain comme du marbre rose, ce qu'elle appelait du jambon de New York. Croyant la langue moins riche qu'elle n'est et ses propres oreilles peu sûres, sans doute la première fois qu'elle avait entendu parler du jambon d'York, avait-elle cru, trouvant d'une prodigalité invraisemblable dans le vocabulaire qu'il put exister à la fois York et New York, qu'elle avait mal entendu et qu'on avait voulu dire le nom qu'elle connaissait déjà. Aussi, depuis, le mot d'York se faisait précéder dans ses oreilles ou devant ses yeux si elle lisait une annonce de New qu'elle prononçait Neve. Et c'est de la meilleure foi du monde qu'elle disait à sa fille de cuisine « Allez me chercher du jambon chez Olida. Madame m'a bien recommandé que ce soit du New York. »
Voilà, Stéphane Huette, c'est vrai que, en fait, souvent on se fait une idée très monumentale de Proust, et il y a dans ses livres des passages qui sont peut-être plus compliqués, plus complexes, plus longs, plus difficiles à lire. Il y a aussi cette peinture de la vie quotidienne, les traits de caractère. Au fond, j'allais dire, c'est un caricaturiste comme un dessinateur de BD est obligé lui-même d'accentuer un trait pour raconter le caractère.
Tout à fait. Et du reste, si je me suis lancé dans la bande dessinée, d'une part, parce que je pensais qu'elle existait déjà, et que j'ai appris qu'elle n'existait pas, mais surtout parce que les personnages, Céline et Flora, Madame Verdurin, étaient des personnages de BD. Et il n'y a pas beaucoup à chercher pour trouver des Nestor et des Colonel Spence, etc. La recherche du temps perdu, les personnages, le bestiaire, si vous voulez, de la recherche, c'est un bestiaire de bande dessinée. Et donc j'ai pas eu beaucoup de mal, je me suis pas beaucoup forcé, les personnages sont comiques. C'est vrai qu'il y a de la gravité, il y a de la poésie surtout, et puis il y a de l'art, parce que l'art est omniprésent, mais il y a aussi énormément d'humour. Et je serais incapable d'ailleurs de qualifier cet humour. C'est pas l'humour juif, c'est pas l'humour anglais, l'humour de Proust, c'est un humour proustien.
Et donc du coup là, vous êtes en train de travailler sur le tome 8.
Oui.
Qui va recouper quoi?
Ça va être la deuxième partie de Autour de Madame Swann. Et là... là, il a rencontré, donc il a déjà rencontré le compositeur, donc Vinteuil, il a déjà rencontré le peintre, Kelstir, et là, il va rencontrer l'écrivain Bergotte. Donc il va rencontrer trois grands artistes, toujours inventés par Proust, mais dont on sait globalement qui sont à l'origine.
Eh bien, il me reste à vous remercier, Stéphane Huette, d'être venu nous parler de Proust aussi joliment ce soir. Je rappelle que donc, il y a 7 tomes, mais il y a aussi des intégrales. Les intégrales recoupent 4 tomes, donc il y en a déjà une intégrale qui est parue. Et on attend avec impatience la suite. Tout ça est paru chez Delcourt. Merci à vous.
Merci infiniment.
Et bonne navigation aussi, parce que c'est important d'aller prendre l'air.
Là, c'est l'hiver, donc ça oui. va, je travaille.
Merci à vous, au revoir.
Merci beaucoup.
Et pour se séparer en douceur, mais aussi pour notre plaisir, quelques lignes supplémentaires de La Recherche du Temps Perdu, elles sont tirées du dernier tome qui s'appelle Le Temps Retrouvé.
Enfin, cette idée du temps avait un dernier prix pour moi. Elle était un aiguillon. Elle me disait qu'il était temps de commencer. Si je voulais atteindre ce que j'avais quelquefois senti au cours de ma vie, dans de brefs éclairs du côté de Guermantes, dans mes promenades en voiture avec Madame de Villeparisis, et qui m'avait fait considérer la vie comme digne d'être vécue. Combien me le semblait-elle davantage maintenant qu'elle me semblait pouvoir être éclaircie, elle qu'on vit dans les ténèbres, ramenée au vrai de ce qu'elle était, elle qu'on fausse sans cesse, en somme, réalisé dans un livre. Que celui qui pourrait écrire un tel livre serait heureux, pensais-je, quel labeur devant lui. Pour en donner une idée, c'est aux arts les plus élevés et les plus différents qu'il faudrait emprunter des comparaisons, car cet écrivain, qui d'ailleurs, pour chaque caractère, en ferait apparaître les faces opposées, pour montrer son volume, devrait préparer son livre minutieusement, avec de perpétuels regroupements de forces, comme une offensive, le supporter comme une fatigue, l'accepter comme une règle, le construire comme une église, le suivre comme un régime, le vaincre comme un obstacle, le conquérir comme une amitié, le suralimenter comme un enfant, le créer comme un monde sans laisser de côté ses mystères, qui n'ont probablement leur explication que dans d'autres mondes, et dont le pressentiment est ce qui nous émeut le plus dans la vie et dans l'art.
La semaine prochaine aux environs de 19h20 et bien sûr après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Xavier Le Herpeur pour une heure en série. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.